Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une ce soir, les États-Unis à la veille des élections. En premier lieu, l'élection présidentielle qui opposera le sortant Donald Trump au démocrate Joe Biden. Les deux candidats qui ont encore multiplié les attaques ce lundi.
En Afghanistan, au moins 22 morts après une attaque contre l'université de Kaboul. Attaque revendiquée par le groupe État islamique.
Et puis du tennis avec la première journée du Masters 1000 de Paris. Nous retrouverons Eric Mamrut sur place alors que le français Hugo Gaston est attendu ce soir sur le court.
Les journaux.
Le journal.
En français facile.
En français facile.
Aux États-Unis, dernier jour de campagne pour les deux candidats à la présidentielle.
Oui, avec un marathon pour Donald Trump qui tente de rattraper son retard dans les sondages et qui enchaîne des meetings ce soir dans 5 États. Les attaques ne cessent pas, Donald Trump accusant son adversaire Joe Biden d'être, je cite, un criminel. Donald Trump critiquant les médias, les réseaux sociaux et la gauche radicale. Joe Biden, de son côté, affirmant, je cite, « Nous en avons assez des tweets, de la colère, de la haine, de l'échec et de l'irresponsabilité. Il est temps pour Donald Trump de faire ses valises et de rentrer chez lui. » Fin de citation. Alors à présent, on va se pencher sur le programme des deux candidats et précisément leur programme économique. Précision Myriam Berber.
Face à Donald Trump, Joe Biden a infléchi certaines de ses positions sur la ligne de son ancien rival démocrate Bernie Sanders. Si Joe Biden est élu le 3 novembre, les Américains les plus riches et les grosses entreprises paieront 4 000 milliards de dollars d'impôts supplémentaires sur les 10 prochaines années. Les recettes fiscales seront réinvesties dans les infrastructures, l'éducation et des programmes sociaux pour aider les ménages pauvres et les classes moyennes. L'un veut augmenter les impôts, l'autre les baisser. Des baisses d'impôts qui devraient bénéficier aux entreprises. Donald Trump compte créer 10 millions d'emplois en 10 mois pour relancer une économie affaiblie par la crise sanitaire. Plus de 11 millions de personnes sont au chômage. En face, Joe Biden promet 700 milliards de dollars pour relancer l'économie. Un plan qui prévoit de créer 5 millions d'emplois grâce à des investissements publics massifs, notamment dans la transition écologique. Malgré cette opposition, il y a un point sur lequel les deux candidats se rejoignent, c'est l'importance du Made in America. On peut s'attendre à ce que les relations commerciales avec la Chine soient quasiment les mêmes.
Myriam Berber du service économie de RFI.
Et puis Romain, de nouveaux records dans le cadre de la pandémie de coronavirus.
Oui, on évoquait justement les États-Unis qui restent le pays le plus endeuillé au monde. Près d'un décès sur 5 aujourd'hui lié à la pandémie a lieu aux États-Unis. Mais l'Europe et la région du monde où la pandémie progresse le plus vite. Illustration en France, avec les derniers chiffres qui ont été rendus publics ce soir. 52 000 nouvelles contaminations en 24 heures en France. C'est un record. Un peu plus tôt dans la journée, le conseil scientifique qui guide le gouvernement, avait affirmé que la deuxième vague de la pandémie ne serait sans doute pas la dernière et que l'on pouvait craindre plusieurs vagues successives durant la fin de l'hiver. La France qui est reconfinée depuis la fin de la semaine dernière, comme d'autres pays européens. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, mais l'Allemagne a cependant fermé ce lundi les restaurants, les bars, les cafés, ainsi que toutes les institutions culturelles et sportives. Et la chancelière Angela Merkel a prévenu que les fêtes de fin d'année, notamment Noël, seraient réduites à des réunions familiales limitées.
En Afghanistan, l'université de Kaboul touchée par une attaque meurtrière.
Oui, le bilan est d'au moins 22 morts, en majorité des étudiants. Autant de blessés au moins. L'attaque au total a duré 6 heures, car après que les assaillants ont fait irruption, eh bien, il y a eu de longs affrontements avec les forces de sécurité. Récit à Kaboul de Sonia Ghezali.
Des tables et des chaises renversées, des corps de jeunes femmes et de jeunes hommes sans vie éparpillés sur le sol d'une salle de classe. Cette scène d'horreur a été prise en photo par des membres des forces de sécurité. Les clichés sont saisissants d'effroi. Il était environ 11h ce matin quand trois hommes lourdement armés parviennent à s'introduire sur le campus de l'université de Kaboul, la plus importante d'Afghanistan. Ils se dirigent vers la faculté de droit et pénètrent dans certaines classes où ils ouvrent le feu. Malgré la revendication du groupe État islamique, les autorités afghanes maintiennent leurs accusations à l'encontre des talibans. Des sources sécuritaires afghanes affirment qu'ils ont agi en collaboration avec Al-Qaïda. Les talibans démentent et accusent à leur tour les autorités afghanes de répandre leur propagande. Il y a 2 ans, l'université de Kaboul avait été déjà prise pour cible dans une attaque revendiquée par la branche afghane du groupe État islamique. Le groupe terroriste implanté depuis 2015 en Afghanistan a également revendiqué l'attaque perpétrée la semaine dernière contre un établissement scolaire dans l'ouest de Kaboul. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Et ce soir, le groupe État islamique revendique cette attaque dans un communiqué posté par son agence de propagande Hamak.
Edward Snowden veut demander la nationalité russe.
Oui, Edward Snowden, c'est ce lanceur d'alerte américain recherché par Washington, car en 2013, il avait rendu public des dizaines de milliers de documents appartenant aux services de renseignement américains. Depuis 7 ans, Edward Snowden vit réfugié en Russie, dont il souhaite donc désormais obtenir la nationalité, sans pour autant abandonner sa nationalité américaine. En fait, il veut la double nationalité américaine et russe. Précision à Moscou de Daniel Valo.
C'est sur Twitter que l'ancien consultant de la NSA annonce avoir entamé les démarches en vue d'obtenir la nationalité russe. Il y a quelques jours, l'épouse d'Edward Snowden, Lindsay Mills, avait fait une autre annonce, celle de la naissance dans les prochains mois de leur premier enfant. Après des années de séparation avec nos parents, explique Edward Snowden, nous n'avons aucune intention d'être séparés de notre fils. C'est pourquoi, ajoute-t-il, en cette période de pandémie et de fermeture des frontières, nous demandons la double nationalité. Le lanceur d'alerte, qui risque jusqu'à 30 années de prison dans son pays, affirme vouloir élever son fils conformément aux valeurs américaines que nous aimons, y compris la liberté d'expression. Fin de citation. En octobre dernier, l'avocat russe d'Edward Snowden avait annoncé que son client bénéficiait désormais d'un permis de séjour d'une durée indéfinie en Russie. Privé de passeport américain depuis 2013 et recherché par la justice de son pays, l'ancien consultant avait fui à Hong Kong et s'était ensuite retrouvé bloqué à Moscou, alors qu'il avait l'intention de trouver refuge en Amérique latine. Edward Snowden affirme qu'il est prêt à rentrer aux États-Unis pour y être jugé, à condition, dit-il, d'être assuré qu'il pourra y bénéficier d'un procès équitable. Daniel Valo, Moscou. RFI.
Le tennis avec le début aujourd'hui du Masters 1000 de Paris.
Oui, dans un contexte bien particulier puisqu'en raison de la situation sanitaire, le tournoi se joue sans public. Il se joue à huis clos. Un Français qui avait fait beaucoup parler de lui, souvenez-vous, à Roland-Garros, est attendu ce soir sur le court, c'est Hugo Gaston. Éric Mamrud, vous êtes en direct de l'Accor Arena de Bercy. Hugo Gaston qui doit affronter l'Espagnol Pablo Carreña Busta.
Hugo Gaston, le petit Toulousain de 20 ans qui, à la surprise générale, avait atteint les 8e de finale, porte d'Auteuil pour son tout premier Roland-Garros, battant au passage le lauréat de l'édition 2015, Stan Wawrinka, et ne s'inclinant qu'au 5e set face à l'Autrichien Dominic Thiem, le 3e joueur mondial. Il n'était alors qu'un anonyme 239e joueur au classement. Après cette parenthèse enchantée et après un petit peu de repos, Hugo Gaston, désormais 161e à l'ATP, a retrouvé son ordinaire, à savoir le circuit secondaire. Il a ainsi disputé le tournoi Challenger de Hambourg la semaine dernière, remportant 2 matchs, loin de la frénésie médiatique dont il a bénéficié durant Roland-Garros. Aujourd'hui, il revient donc dans la lumière du court central de l'Arena de Bercy, sans public cette fois pour l'encourager. Il ne recevra donc pas le soutien et l'ovation des 1000 spectateurs qui avaient vibré lors de son match contre Dominic Thiem, mais il en aurait eu bien besoin, car Hugo Gaston va affronter donc dans quelques instants le très coriace espagnol Pablo Carreño Busta, 15e mondial, demi-finaliste du dernier US Open en septembre. Ce sera après le match qui se termine justement à l'instant, la victoire du Croate Marin Cilic face au Canadien d'origine togolaise Félix Auger-Aliassime, le score 6-0, 3-6, 6-3 pour Marin Cilic.
Merci Eric Mamrut, à retenir un peu plus tôt dans la journée dans le cadre de ce Masters 1000 de Paris. Qualification de 2 Français pour le deuxième tour, Corentin Moutet et Hugo Humbert. Et puis le prix Femina qui a été décerné aujourd'hui. Le prix Femina, c'est un prix littéraire, l'une des rares récompenses littéraires maintenues, alors que la plupart ont reporté leur édition cette année en raison de la fermeture des librairies. Et le plus prestigieux des prix Femina, c'est le prix du roman français. Il a été décerné à Serge Joncourt pour son livre intitulé « Nature humaine ». Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Bonne soirée, Sylvie Berruet.
Merci à vous, Romain.
Et merci à Laurent Philippot. À la réalisation, il est 21h10, ici à Paris.